Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, c'est encore moi, je suis encore là, j'existe encore. Le dernier épisode date du 5 novembre 2020. Et oui, j'ai pris plus d'un an de pause. Ça a l'air que je suis comme ça, moi. Je pense qu'il y en a qui me connaissent déjà, qui savent que je fais ça. Mais, je suis contente d'être là et de vous parler aujourd'hui. Puis, je pense que je vais me relancer pour une petite série d'épisodes. Dur pour moi de vous dire combien et de vous dire à quelle fréquence. Mais, voilà, on va y aller comme ça va venir. Ceux qui m'entendent pour la première fois, bonjour. Je vous invite à peut-être écouter des précédents épisodes pour découvrir un peu plus le podcast, les sujets traités, au final, les sujets qui m'intéressent et qui je suis. Et, j'avais envie de commencer en vous souhaitant une bonne année 2022. Des raisons de mon retour, c'est que, j'ai plus de temps, plus de calme autour de moi avec le confinement, avec la vie sociale qui se fait beaucoup plus calme et aussi, à ne pas oublier, ce qui est pas en lien avec les événements actuels en 2022, mais les saisons aussi, on est en hiver, on est en janvier. C'est traditionnellement l'hiver est fait pour l'introspection, donc on va rester dans nos maisons, on va rester dans le calme, on va se tourner vers l'intérieur. On peut aussi faire des lectures, étudier, apprendre des nouvelles choses. Donc, je me retourne vers un moment d'étude et lire des livres que je voulais lire depuis longtemps, échanger avec des amis sur des sujets philosophiques. C'est tout tourne un peu autour de ça en ce moment. Donc, ça m'a donné envie de revenir vers le podcast. Puis, je suis toujours étonnée. J'ai commencé en 2017, en décembre. Tout juste après avoir reçu mon niveau 1 de Reiki. J'ai commencé le podcast, ça faisait déjà des années que je voulais en faire. Puis, j'étais impressionnée, ça m'a fait rencontrer des gens qui me contactaient via les réseaux sociaux ou même que je contactais, puis on créait des liens. Et, je suis allée voir pour justement cet épisode-ci, je suis allée voir les statistiques du podcast pour me rendre compte qu'il y a des épisodes qui ont été écoutés plus de 1000 fois, qui ont été téléchargés plus de 1000 fois. Puis je me suis dit, OK, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes qui ont écouté cet épisode-là, précisément. Tu sais. Puis c'est drôle pour moi parce que, tu sais, je vous ai déjà parlé, j'ai un projet de livre depuis tellement d'années. Puis je réalise aujourd'hui que s'il y avait 1000 personnes qui lisaient mon livre, pour moi, ce serait un succès exceptionnel, tu sais. Puis, ça ne demande pas les mêmes efforts faire un épisode de podcast qu'écrire un livre, mais quand même, c'est autant significatif. Puis, je pense que quand j'ai commencé en 2017, j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes allaient m'écrire par rapport à un épisode ou que 1000 personnes allaient écouter chacun des épisodes. Donc pour ça, je sais pas quoi vous dire exactement parce que c'est beaucoup pour moi, mais je suis contente que vous soyez là. Puis malgré mon irrégularité, ceux qui ont envie de m'écrire, ça va me faire plaisir. Maintenant, je fonctionne avec soit la page Facebook de La Chamane ou le Instagram de La Chamane. Donc c'est les deux moyens. J'ai plus vraiment d'adresse courriel parce que malheureusement, j'étais pas très assidue. Même chose, parfois ça peut prendre un certain temps avant que je vous réponde à un message. Des fois, je glisse dans des bulles hors du temps, puis ça peut prendre quelques semaines, mais sachez que ça me touche tout autant, puis je trouve ça très précieux que quelqu'un m'écrive. Fait que c'est pas parce qu'il y a un délai de réponse que ça me touche pas ou que ça m'intéresse pas. Donc, gênez-vous pas quand vous avez des idées par rapport à un épisode. Et, ben c'est ça. On va commencer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la cohérence. Et c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps. Je vous ai déjà parlé de mon écoute du premier livre de David Wilcock, qui est « The Source Field Investigations ». Et écoutez, c'est une bible, c'est très dense. Pour ceux qui ont envie de le lire, ça existe en anglais ou en français. En français, je pense que c'est « Investigation autour du champ de conscience unitaire » ou quelque chose comme ça. Et c'est dans son livre que j'avais pour la première fois accroché sur l'importance de la cohérence, parce que il en parle en fait, pas juste au niveau, tu sais, la cohérence va nous affecter au niveau de nos décisions. T'sais, si on est cohérent avec nos valeurs, nos désirs, notre vision du futur, on va faire des choix qui sont cohérents avec tous ces points-là. L'autre aspect qu'il amène dans le livre, c'est la cohérence au niveau physique, au niveau quantique. Donc, en fait, beaucoup avancé dans le livre, en fait, dans la seconde partie, il parle de la possibilité d'influencer la matière. Donc, il va parler autant de vaisseaux spatiaux, par exemple, que de la possibilité de faire bouger une roche, mais sans avoir à la prendre. Donc, par le son, une modification de la matière. Donc, ces points-là, il les amène en parlant de la cohérence. Parce que, dans le fond, ce qu'il amène à dire, c'est qu'au niveau physique, je suis vraiment pas très calée en physique, mais la matière, donc les atomes qui forment la matière, plus ils sont cohérents, donc plus leur mouvement est semblable. La cohérence en physique, c'est quelque chose de limpide. Donc plus leur mouvement est semblable, plus c'est facile de créer une modification physique. Donc, en fait, quand j'avais lu ce livre-là, écoutez, je pense que c'était en 2015 ou en 2016, j'avais vraiment... Ok, j'avais compris à quel point la cohérence était importante, parce que non seulement elle nous permet d'avoir un impact dans notre vie, donc de rendre notre vie plus cohérente, mais au niveau quantique, si on veut faire des changements vraiment dans tout ce qui nous entoure, en fait. Donc oui, notre petite vie, mais aussi si on veut changer complètement. Donc si moi je veux changer, je veux guérir de traumatisme, ou je veux passer par-dessus ce qui est arrivé dans mon enfance, ou je veux passer par-dessus des patterns, ben oui, je vais être beaucoup plus cohérente et ça va permettre autour de moi tout un changement dans le monde physique énergétique. Donc ce que je vais projeter va être cohérent avec ce que je veux. Et il y a un pouvoir là, je pense, qui est très très fort. Donc, si j'ai un souhait à vous donner pour 2022, c'est de travailler votre propre cohérence. Parce que si vous avez un désir de changement dans votre vie, d'évolution, de croissance spirituelle, ça doit passer par là. Si vous savez, il y a l'adage qui dit « là où l'attention va, l'énergie va ». Donc, ce à quoi on pense, les agissements qu'on fait vont influencer qu'est-ce qui va nous arriver. Donc plus on est cohérent, plus on va créer exactement le type de vie qu'on souhaite. Alors tout le monde sait ce qu'est un comportement d'auto-sabotage. Si vous en avez pas vous-même, bravo! Ce serait quand même très étonnant. Tout le monde a un petit quelque chose à quelque part. Pas tout le monde, mais je veux dire, vous comprenez. Il y a les saints ou les yogis qui sont très avancés, qui n'ont plus de comportement d'auto-sabotage, mais la plupart d'entre nous en avons à un certain degré. Alors, peut-être identifiez d'abord vos comportements d'auto-sabotage et puis vous demandez si vous souhaitez rester là-dedans ou si vous souhaitez avancer. Puis, pour avoir moi-même été pris longtemps dans des comportements négatifs, je peux pas dire que j'ai terminé non plus, mais quand j'entends une pensée qui est négative dans ma tête, j'essaie le plus possible de la laisser glisser sans lui donner d'attention, parce que si je la nourris, ben c'est sûr que je vais replonger dans mon manque de, dans un manque de confiance en moi, dans le doute, puis j'oserai plus avancer vers ce que je souhaite vraiment, tu sais, à titre personnel, ma vie change constamment, pour ceux qui me suivent depuis le début du podcast, mais dans la dernière année, j'ai vécu beaucoup d'expériences différentes, puis ça m'a permis d'arriver à un point où j'ai dû prendre des décisions. J'ai dû laisser aller certaines personnes qui étaient dans ma vie pour le moment parce que c'était pas cohérent avec ce que je souhaitais. Ou je sentais pas que ça me mettait dans un état de cohérence. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ça, que j'arrive à faire des choix comme ça parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je sais vers où je veux aller au niveau relationnel. Le type d'énergie que je vais avoir, le type d'influence que je vais avoir autour de moi aussi. Je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je ne veux pas replonger pour les avoir vécues pendant beaucoup d'années. Et ça me permet de faire des choix cohérents pour la première fois de ma vie. Au niveau financier aussi, j'ai fait longtemps n'importe quoi avec mon argent en me disant que de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas faite pour être bien financièrement. Puis dans la dernière année, j'ai eu 2 augmentations de salaire alors que je suis barista. Puis j'ai décidé, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, j'étais rendue avec une job de bureau en ressources humaines, puis j'ai pris la décision de retourner comme barista parce que c'est là que j'avais du fun. Donc j'ai suivi, il y a un adage qui dit « follow your joy », suis qu'est-ce qui t'apporte de la joie, mais j'ai suivi ça. Puis j'ai eu un beaucoup plus grand impact sur la vie des gens que j'en avais quand j'étais derrière un bureau. Donc j'ai senti que j'apportais quelque chose de plus dans la journée de chaque personne que je croisais. Puis en plus, mon salaire est plus élevé maintenant qu'il aurait été si j'étais restée dans ma job de bureau. Parce que oui, j'aurais eu une augmentation, mais pas aussi significative. Puis ça doit faire... J'avais déjà eu une bonne augmentation au printemps, j'en ai eu une autre à l'automne. Puis ça doit faire 6 mois que je me dis, ben voyons donc. Je veux dire, je suis loin d'être riche, là, je suis loin d'avoir un salaire extraordinaire, mais cette reconnaissance-là, qui non seulement m'apporte de la joie parce que je me dis, j'ai bien fait de prendre la décision de retourner vers ça, puis en plus me permet d'être plus à l'aise financièrement. Et je me dis, waouh, ça c'est une démonstration quand on dit qu'il faut aller vraiment vers ce qui nous fait vibrer, mais il faut pas le faire de façon... Tu sais, si aujourd'hui, vous rêvez d'être un musicien célèbre ou extraordinaire qui compose des pièces extraordinaires, ben ça veut pas dire que lâcher sa job demain, c'est la solution, parce que c'est pas cohérent non plus. Par contre, continuer à aller vers ce rêve-là est cohérent, mais en le faisant, en évitant le plus possible d'avoir la résistance. Donc c'est aussi un autre adage, mais plutôt une philosophie. En anglais, c'est « the way of least resistance », donc suivre le chemin de la moindre résistance. Ça veut pas dire qu'il faut oublier ses rêves, qu'il faut oublier qu'on souhaite changer des choses dans notre vie, mais c'est d'y aller de façon douce et simple, sans créer le chaos autour de nous. Donc si je lâche mon travail demain, ben ça va me créer beaucoup de problèmes, beaucoup de stress, et ça va m'empêcher d'agir de façon cohérente et posée dans mes actions. Donc, pour vous donner un exemple de cohérence, je suis maintenant maître Reiki, donc j'ai mon niveau 4. Je suis pas encore maître Reiki enseignant parce que j'ai pas encore enseigné tous les niveaux à une personne, ce qui est nécessaire pour avoir ce titre-là, mais je suis maître Reiki depuis déjà bientôt 3 ans. J'ai tout récemment donné mon premier soin à quelqu'un en 2021. Et j'ai commencé mon niveau 1 en 2017. Pourquoi? Parce que j'avais, à ce moment-là, et jusqu'à tout récemment, tellement de colère, de honte, d'insécurité, de juste tellement de sentiments et d'émotions à l'intérieur de moi qui étaient lourdes. Et j'avais beaucoup de difficultés avec l'intimité avec l'autre. Pas nécessairement l'intimité physique ou sexuelle, mais juste être en contact avec quelqu'un dans une certaine intimité me rendait très insécure, ayant un bon background de personne anxieuse. Alors, je me disais, je peux pas poser mes mains sur quelqu'un et lui donner un soin énergétique. Puis je me souviens, un jour, je suis allée voir mon coach, qui est Jocelyn Primor, qui est à Rimouski, pour ceux qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Donc lui, je lui avais dit, est-ce que je devrais commencer à faire des traitements de Reiki? Puis il m'a dit, tu ne veux pas donner de cette énergie-là à quelqu'un. Puis pourtant, le Reiki ne concerne pas notre énergie à nous. On se connecte à l'énergie universelle, puis on fait juste la transmettre à quelqu'un. On est juste un canal. Mais mon canal était encore tellement obstrué que c'était pas possible. Puis j'ai attendu, puis il y a des gens qui me demandaient, est-ce que tu donnes des soins? Jusqu'à ce que je sente que j'avais assez d'harmonie dans mon cœur et donc de cohérence pour pouvoir donner un soin à quelqu'un sans être inquiète d'avoir un impact négatif sur la personne. Alors la cohérence va aller vers tout ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez quelque chose, mais que à l'intérieur de vous, il résonne quelque chose d'autre, vous n'êtes pas cohérent. Donc il faut commencer par aller régler ces choses-là qui fait qu'on n'arrive pas à vibrer où on voudrait vibrer. Donc j'avais envie de vibrer dans la fréquence du guérisseur, mais je vibrais dans la fréquence de la personne blessée qui a besoin d'être guérie. Et c'est, je pense, quand même quelque chose qu'on retrouve dans la spiritualité. On cherche d'abord à répondre à nos questions. On cherche nos réponses à nous. Il faut faire attention parce qu'à un certain moment, tant qu'on n'a pas guéri assez de choses, on ne peut pas vraiment entrer dans le rôle d'un enseignant. Une autre chose que j'ai beaucoup travaillé dans les dernières années, beaucoup dans la dernière année aussi, c'est l'humilité. Donc, arriver à me mettre à l'extérieur de ce qui se passe, c'est une façon pour moi d'être cohérente comme enseignante aussi. Donc il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vouloir prouver que je suis capable de faire ça, c'est juste le faire du mieux que je peux. Donc pour les soins Reiki, ça, c'est un exemple par exemple. Pour revenir au concept de la moindre résistance, si je prends un autre exemple personnel, il y a une époque où j'étais à fond dans le marketing de réseau, puis l'idée que, par exemple, en vendant des huiles essentielles ou en vendant un programme d'entraînement, je pouvais, moi, avoir une abondance financière. Et j'entendais des histoires là, des espèces d'énergie, la dernière chance, là, de gens qui étaient sur le bord de faire faillite, puis qui avaient investi tout ce qui leur restait d'argent dans l'achat de produits à vendre, puis qui avaient starté leur entreprise de marketing de réseau, puis que ça avait fonctionné, tu sais. Ces gens-là, ils roulaient avec une super voiture payée par l'entreprise et tout, puis je me disais, c'est ce que je vais faire. Fait que le peu d'argent qui me restait, je le mettais là-dedans pour après être tellement stressée, puis tellement anxieuse, puis me dire qu'il faut que je pousse, puis il faut que je pousse, puis il faut que je pousse encore pour réussir à gagner assez d'argent. Puis c'est sûr que si eux sont capables, je suis capable, voyons donc. C'était pas du tout cohérent parce que j'étais en train de créer des problèmes pour m'en sortir, mais c'est pas ça. Tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus les choses sont fluides, plus les choses sont simples, plus notre succès va être grand. Parce qu'on fait juste... on coule. On est dans le... on est dans le flow avec les choses. Un autre bon exemple de cohérence, c'est quand on prend des résolutions du nouvel an. Donc là, on est encore très près du nouvel an. J'enregistre l'épisode, on est le 11 janvier. Donc on se dit, ok, je fais un régime, là, je veux perdre du poids. Mais si on ne sait pas comment s'y prendre, si on n'est pas assez informé, puis si on a des réflexes alimentaires qui sont difficiles à changer, ben pour être cohérent, il faut commencer par s'informer comme il faut, puis changer ses habitudes tranquillement, surtout si on a une grande résistance au changement. Donc, la seule façon d'avoir un succès, c'est d'être doux, bienveillant envers soi-même et très cohérent avec où on est. Puis c'est ça qui fait que souvent, on a des échecs, on rencontre souvent des échecs parce que on prend pas le temps d'être cohérent avec soi-même. Pareil pour la méditation. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un 20 minutes de méditation qui est souvent recommandé. On dit que ça a déjà un super bon impact dans notre journée d'avoir un 20 minutes de méditation. Et je me disais, waouh, il y a une époque où j'aurais jamais été capable de méditer pendant 20 minutes. Soit je m'endormais, soit j'étais pas bien, j'avais mal aux jambes. Il y avait toujours quelque chose. Puis je me disais, ok, ben dans ce cas-là, on commence avec 2, 5, tu sais. Donc si vous avez envie de méditer et c'est difficile pour vous, commencez par quelque chose de tout petit. Pas parce que vous n'êtes pas capable puis qu'il faut vous traiter comme un enfant, mais c'est vraiment parce qu'il faut être cohérent avec où on est. Puis quand le 2 minutes finit puis qu'on se dit, ah ben là, c'est tout. Ben le lendemain, on peut faire un 5, tu sais. On y va de façon cohérente et douce pour réussir à avancer tranquillement. Donc, tout ce qui concerne les blessures d'enfants, tout ce qui nous empêche de changer notre vie, ben, faut commencer par s'en occuper pour être cohérent. Puis on sait que si on le fait, après, on va avancer. Moi, tout ce que je vis dans ma vie actuellement, je sais qu'un jour, il va falloir que j'arrête de me dire ça, mais en ce moment, je suis juste dans une espèce de béatitude. Je comprends que je mérite ce qui m'arrive, puis en même temps, c'est tellement différent de ce que j'ai vécu. Puis moi-même, j'ai tellement changé de comportement que je me sens encore à la marge du changement. Je vois qui j'étais, puis je me dis, ben voyons donc. Pour dire à quel point c'est possible, mais il faut être cohérent. Parce que sinon, on va rester. Puis, tu sais, si on dit qu'on est ici dans le but d'évoluer, puis de transgresser un certain état, de dépasser un état, ben ça se peut que ça prenne plusieurs vies si on reste toujours à la même place. Mais si on est cohérent, puis qu'on avance tranquillement, ben on va le dépasser, puis on va atteindre le prochain stade qui est l'objectif, parce que l'univers est constamment en évolution, puis l'objectif de notre présence ici, c'est d'évoluer avec lui. Je vais continuer avec un extrait du premier livre de David Wilcock qui s'appelle « The Source Field Investigations » qui est traduit aussi en français pour ceux qui veulent le lire en français. Et, juste pour vous mettre en contexte, David Wilcock s'appuie sur énormément de recherches scientifiques. Donc, pour ce livre-là, c'est 30 ans de recherche qu'il a mis dedans. C'est son premier livre, donc par la suite, pour ses livres suivants, il s'est appuyé sur cette recherche-là et d'autres recherches subséquentes. Mais ça, c'est son premier livre et il fait de la recherche sur les phénomènes paranormaux, sur la métaphysique depuis qu'il est tout petit. Il était primaire ou secondaire, je me souviens plus exactement dans sa bio, mais il essayait de faire de la télépathie, il essayait de l'éviter, il essayait d'avoir des impacts sur ses rêves quand il était tout jeune déjà. Donc il avait un intérêt pour ça depuis toujours, puis c'est sa passion, c'est sa vie, donc il passe tout son temps là-dedans. Et donc là, il va nous parler de recherches qui ont été faites, puis vous allez voir, quand on va arriver vers la fin, vous allez comprendre l'intérêt au niveau de la cohérence. Donc, on y va. Au début de 1979, le docteur Robert John a mis sur pied à Princeton un laboratoire de recherche sur les anomalies afin d'étudier si des états spéciaux de conscience, de même que les émotions fortes et l'intention dirigée, pouvaient avoir un quelconque effet sur des appareils électroniques sensibles. Le docteur Roger Nelson s'est joint à l'équipe en 1980 et il a fini par devenir la principale force derrière cette recherche. Presque dès le début, John et Nelson s'étaient donné pour objectif de déterminer si l'esprit humain pouvait créer un quelconque effet mesurable sur une source de bruit blanc électronique produit à l'aide d'un appareil déjà vendu dans le commerce. De son côté, Schnoll étudiait également les possibles effets physiques de la pensée sur le courant électrique. Deux groupes différents effectuaient donc des recherches sur la même chose. John et Nelson voulaient trouver un moyen de traduire le bruit blanc électrique sous forme de nombres, dont ils pourraient se servir pour tracer des graphiques, réaliser des mesures. De cette façon, si une personne pouvait avoir un effet sur le flux électrique, ils pourraient le prouver mathématiquement. Ils ont alors déterminé que le meilleur moyen d'y parvenir était de créer un générateur de nombres aléatoires, ce qui permettrait de mesurer le niveau de régularité d'un courant électrique circulant dans un circuit. Toute déviation de la norme dans le flux électrique allait engendrer des constantes cycliques dans les séries de nombres produites par le générateur. Une fois qu'un schéma récurrent serait discerné, ces nombres ne seraient plus aussi aléatoires. Bien sûr, du point de vue de la science traditionnelle, le temps n'est pas censé ralentir ni accélérer. Toutefois, s'il se mettait à ralentir et à accélérer alors que l'électricité circule dans le générateur de nombres aléatoires, les séquences de nombres devraient commencer à laisser voir des constantes, qu'il serait alors possible de mesurer et de transposer sous forme de tracés graphiques. Schnoll cherchait lui aussi à identifier exactement le même type de constante dans des réactions physiques, chimiques, biologiques et radioactives. Toutefois, il ne s'attendait nullement à trouver des effets attribuables à l'esprit humain. Au fil des ans, le docteur Nelson a utilisé trois types de générateurs de nombres aléatoires qui étaient basés soit sur le bruit thermique, c'est-à-dire la hausse et la baisse naturelle de température dans un circuit électrique, soit sur l'effet tunnel des électrons, qui résulte de la circulation d'électrons dans de minuscules circuits, tels ceux que l'on trouve dans une puce électrique. Les circuits utilisés avaient été soigneusement protégés afin de les mettre à l'abri de l'influence de champs magnétiques externes ou de changements de température. Et le docteur Nelson s'était également assuré que le vieillissement des composantes ne puisse être un facteur influençant la qualité des données obtenues. Ainsi que l'écrivain Nelson menait sur une période de 10 ans. Cette expérience a permis d'accumuler un très grand nombre de données, mettant en lumière l'existence d'un faible, mais notamment, effet de l'intention humaine sur ces séquences de nombres aléatoires. En réalité, Nelson a découvert que des gens ordinaires comme vous et moi, particulièrement lorsqu'ils sont réunis en groupes importants, peuvent vraiment avoir une influence sur les nombres produits par les ordinateurs et ainsi créer des constantes dans le chaos. Dans un article publié en 2008, le docteur Nelson a apporté les précisions suivantes. Par exemple, nous amenions le générateur de nombres aléatoires, branché sur un ordinateur portable et sur un ordinateur de poche, à des concerts, des rituels, des cérémonies religieuses, des manifestations sportives, des réunions de conseils d'administration et à divers autres événements susceptibles de créer un état de conscience de groupe. Au bout de plusieurs années, nous avons ainsi, accumuler plus d'une centaine de fichiers contenant les données recueillies lors de la situation propice à la résonance de groupe, ainsi qu'un nombre plus petit mais tout de même important d'ensembles de données collectives lors de situations banales, à des endroits tels que des centres commerciaux et des coins de rue animés, ainsi que lors de rencontres universitaires. Ce qui en est essentiellement ressorti, c'est que les effets les plus importants ou les plus fiables, semblent subvenir lors de rituels ou à la suite de toute autre influence conçue pour amener les gens dans un état d'esprit commun. Une conscience globale. En 95, deux générateurs de nombres aléatoires situés à 20 km l'un de l'autre indiquèrent un changement mesurable au moment précis où des millions de personnes regardaient la cérémonie des Oscars à la télévision. En 97, le docteur Dean Radin observa d'importantes pointes dans les moments les plus critiques du procès d'O.J. Simpson, et ce, à l'aide de 5 générateurs situés à 5 endroits différents. Cet événement fut l'un des plus regardés de l'histoire de la télévision. Lors des funérailles de la princesse Diana en 98, 12 générateurs situés aux États-Unis et en Europe montrèrent également des écarts statiquement statistiquement significatif par rapport aux niveaux normaux aux moments les plus critiques ou émouvants de cet événement. À la fin 97, ils entreprirent de mettre sur pied un réseau mondial de générateurs capables de fonctionner 24 heures par jour, 7 jours par semaine, afin de trouver d'autres écarts significatifs de ce genre. Toutes ces données étaient transférées via Internet à l'Université de Princeton pour y être analysées. En 2001, le Global Consciousness Project avait connu une telle expansion qu'il y avait désormais 37 ordinateurs autour du monde, générant constamment des nombres aléatoires. Dès le début des événements du 11 septembre 2001, et dès que la nouvelle se répandit partout dans le monde, ils obtinrent des résultats tout à fait remarquables. Nous constatons que sur une période de 3 mois, une date précise est associée à une anomalie statistique, le 11 septembre 2001. À cette date, l'intervalle de temps où cette anomalie apparaît le plus souvent dans les 37 ordinateurs est celui allant de 6h à 10h du matin, avec une pointe entre 9h et 10h, et ce, principalement sur la côte est des États-Unis. En effet, plus les ordinateurs étaient proches de New York, plus l'effet était intense. Un score aussi élevé ne pouvait, selon les probabilités normales, se produire qu'environ une fois sur 1 million de secondes, ce qui équivaut à près de 14 jours. Ainsi que l'exprimait le Dr Dean Rabin, ces effets sont la preuve la plus frappante que j'ai vue jusqu'à présent, que l'attention et l'intention de très nombreux esprits exercent un effet sur le monde physique. Peut-être parce que cet événement fut également le plus horrible de tous. La science repose sur la prévision. Vous ne pouvez vous contenter d'attendre que les choses se passent pour ensuite analyser ce qui est arrivé. Dans ce cas, lorsqu'un événement majeur va bientôt survenir dans le monde, vous écrivez à l'avance ce à quoi vous vous attendez, puis vous observez si votre prévision se réalise. En 2008, Nelson a rapporté qu'il avait choisi à l'avance plus de 250 événements précis à la suite d'un examen approfondi et minutieux, afin de tenter de prédire si quelque chose pouvait arriver, plutôt que de simplement chercher des pointes dans les données, comme celles du 11 septembre 2001, et de les analyser ensuite. Parmi ces 250 événements, il y avait des tragédies et des célébrations, des catastrophes naturelles et d'autres désastres d'origine humaine, ainsi que des rassemblements prévus et spontanés d'un grand nombre de personnes. Dans chacun de ces 250 cas, un effet mondial notable s'est produit, créant ce qu'ils ont appelé des moments de conscience globale. Les chances que l'ensemble de ces 250 événements puissent être attribués à quelque chose d'autre qu'à notre conscience collective ont été évaluées à 1 sur 10 millions. Revenons au 11 septembre 2001, date de l'effet le plus frappant jamais observé à cette époque-là. Si 37 ordinateurs disséminés partout dans le monde ont pu enregistrer un changement notable ayant culminé entre 9h et 10h du matin, cela implique que chaque ligne à haute tension et chaque circuit électrique dans le monde ont alors subi une perturbation causée par le choc émotionnel de l'humanité. Cela nous ramène, une fois de plus, aux effets observés par Schnoll, sauf que cette fois, c'est notre conscience collective qui en est la cause. Si la puissance combinée de nos pensées peut provoquer des effets mesurables dans les générateurs de nombres aléatoires du monde entier et créer au même moment des vacillations dans le courant électrique. Qu'en est-il du champ magnétique de la Terre? Le géologue Greg Braden a révélé l'existence de tels effets dans son livre « Le temps fractal ». En septembre 2001, deux satellites environnementaux opérationnels géostationnaires ont détecté une augmentation soudaine du magnétisme global qui changea à jamais la perception que les scientifiques avaient de notre monde et de nous. Tant le satellite GOES 8 que le GOES 10 détectèrent alors une hausse subite et marquée de la force du champ magnétique terrestre, qui plafonna à une mesure de presque 50 unités, plus élevée que tout ce qui avait été enregistré jusque-là. Il était alors 9h du matin, soit 15 minutes après que le premier avion eut percuté l'une des deux tours du World Trade Center, à environ 15 minutes avant l'impact du deuxième avion sur l'autre. La corrélation entre ces événements et les lectures était pour le moins troublante. Et elle était incontestable. Le 14 septembre 2001, une prière mondiale pour la paix eut lieu avec la participation de nombreuses personnalités charismatiques célèbres et elle fut diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision du monde. Des centaines de millions de personnes participèrent à cette méditation. Étonnamment, à ce moment précis, les tracés graphiques des générateurs permirent de constater qu'il y avait un énorme effet dans la direction opposée à ce qu'ils avaient indiqué le 11 septembre. Le 14 septembre, un accent particulier fut mis sur de tels moments spirituels collectifs, y compris des minutes de silence organisées en Europe et en Amérique. L'image du graphique est très révélatrice. La tendance montre une nette diminution, constamment à l'opposé de la direction habituelle. Ça signifie manifestement que nous pouvons influencer le cours des choses dans deux directions, soit vers plus de chaos et de vacillement, sous l'effet d'une grande tragédie, soit vers une plus grande cohérence, si nous participons à une vigile mondiale de prière pour la paix. Lorsque nous sommes habités d'une paix profonde, le flux aléatoire des nombres émanant des circuits informatiques devient encore plus équilibré. Peut-être parce que les fluctuations de l'électricité sont beaucoup plus uniformisées et cohérentes que d'habitude. Ces effets sont tout à fait compatibles avec ce que nous avons découvert au sujet du champ unitaire dans les chapitres précédents, y compris dans le cas des études sur les pyramides. Je viens tout juste de me souvenir que j'ai participé à cette méditation. Tous ceux qui étaient probablement à l'école à cette époque, moi je me souviens dans mon village au Québec qu'on avait tous pris une minute de silence, peut-être même plus, je me souviens plus exactement. C'était, imaginez le nombre de personnes, je sais pas, j'aimerais voir en fait si les données sont trouvables quelque part, mais c'est une des premières fois que je me souviens d'avoir fait ça. Puis, imaginez, si vous l'avez fait vous aussi, bien, c'est une preuve qu'on peut avoir un impact en faisant simplement ça. Au début du livre, j'ai pas retrouvé l'extrait, là, mais je me souviens qu'il parlait d'une prison où il y avait énormément de problèmes de criminalité dans la prison, donc d'agression, de bagarre et tout. Puis, des gens avaient médité à côté de la prison dans l'idée d'apporter de la paix, justement, aux gens qui étaient là. Puis tout d'un coup, on avait remarqué une grande différence, une grande diminution dans les agressions dans la prison. C'est un des exemples qu'il donne au début du livre, puis c'est très accrocheur, puis ça donne envie d'en savoir plus. Mais justement, il parle de l'impact qu'on a sur qu'est-ce qui nous entoure. Il parle aussi de personne qui avait branché un genre de détecteur de mensonges sur des plantes pour voir si elles réagissaient à des agressions. Donc, si on disait à la plante qu'on allait la brûler, est-ce qu'elle réagissait? Puis, dans le livre, il utilise noir sur blanc le mot « crier » parce qu'il y avait un pic d'électricité, d'énergie, en fait, de réaction chez la plante quand on disait qu'on allait la brûler. Il avait fait des tests comme ça aussi en une plante qui était à côté d'un lavabo, puis on sait que dans un lavabo, il y a toujours des bactéries, il versait de l'eau bouillante, puis la plante réagissait à la mort des bactéries. Quand elle cassait un œuf aussi, elle réagissait. Donc, le livre commence avec des choses comme ça pour nous montrer que tout est lié, en fait, qu'on a un impact sur tout. Des gens qui communiquent à travers le monde, donc une certaine pensée pour une personne influence la personne, même si il y a des continents qui les séparent. Et il nous amène aussi l'idée du Ho'oponopono. Donc, si on a un conflit avec quelqu'un ou si on a un ressentiment par rapport à quelque chose ou même par rapport à nous-mêmes, on peut dire « Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime », ce qui permet d'influencer positivement, en fait, le lien qu'on a ou de juste adoucir une situation. Donc, ce livre-là, si vous connaissez pas, si vous avez envie aussi de découvrir David Wilcock, c'est quelqu'un qui tripe beaucoup sur la présence extraterrestre et tout, mais il tripe sur la métaphysique, puis ce livre-là est tellement bien fait parce qu'en fait, comme je vous ai lu, il donne des exemples concrets de recherches qui ont été faites. Et vous avez vu le lien avec la cohérence, dans le fond, vous voyez qu'en étant cohérent, en fait, c'est que chaque personne qui prenait une minute de silence créait une cohérence globale sur la Terre, ce qui était mesurable avec les ordinateurs qu'il avait installés. Donc, je vous amène à réfléchir sur la cohérence. Je vous amène à vous demander, pour vous, c'est quoi? Je vous amène à avoir une vigilance de plus dans vos actions. Donc, quand vous... Peut-être on s'en rend pas toujours compte quand on le fait, des fois c'est le soir, on est rendu à la maison, on se prépare pour dormir, puis on repense à notre journée, puis on se dit « Ouh, à un certain moment, j'ai pas agi comme j'aurais voulu. » Vous savez, la conscience, ça commence comme ça. Faut commencer par voir en décalage qu'est-ce qu'on a fait qu'on aurait aimé faire autrement. Pour, au fil du temps, être capable de se reprendre. Des fois, on va le faire pareil, on va dire pareil quelque chose qu'on voulait pas dire, puis on peut dire à la personne... Instantanément, on peut dire hey, « je m'excuse, c'était pas ce que je voulais dire ». En plus d'être cohérent, on développe notre authenticité. On développe des relations qui sont beaucoup plus saines, qui sont beaucoup plus vraies avec les gens. Puis les gens vont avoir plus confiance en nous, même si des fois, notre parole peut dépasser notre pensée ou on a une action qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite être. Bien, on peut le dire qu'on s'est trompé. Puis on crée plus de cohérence. Moi, cet été, j'ai appris à m'excuser, j'ai appris à reconnaître mes torts dans des situations où je ne l'avais jamais fait, je faisais juste dévier, tu sais, j'évitais, tu sais, je me disais quelque chose, je faisais quelque chose que je n'avais pas aimé, j'étais pas fière de moi, ben je passais 2 jours à éviter, puis après ça, ça passait, tout le monde oubliait. Mais là, cet été, il y a des moments où je suis allée voir, par exemple, mon gestionnaire, c'était pas des gros problèmes, mais je suis allée voir, je disais, hey, dans telle situation, je pense que j'ai pas bien agi, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? C'est la première fois de ma vie que je faisais ça. Puis je me suis sincèrement, énormément félicitée parce que j'avais jamais fait ça, j'avais jamais eu la maturité de faire ça. Puis j'ai senti tellement de cohérence à l'intérieur de moi parce que je me suis dit, enfin, j'agis comme je veux agir. Au lieu de fuir, au lieu d'éviter, au lieu de chercher à cacher ma mauvaise action, entre guillemets, qui était loin de quelque chose, j'ai rien fait d'inacceptable, mais c'est juste, j'aurais aimé mieux agir, puis je suis allée en conséquence. Il y a aussi une fois où j'ai répliqué de façon sèche à ma coordonnatrice, puis je suis allée la voir, j'ai dit, à la fin de la journée, j'ai dit, je m'excuse, je pense que je t'ai pas bien parlé tantôt. Elle m'a dit, ah, il n'y a pas de problème, j'ai dit, ben, je tenais quand même à te le dire. Puis plus on fait des actions comme ça, plus on est cohérent. Puis à un certain moment, on n'aura plus besoin de s'excuser parce qu'on va peut-être réussir à attraper le mot dans notre bouche avant qu'il sorte. On va peut-être se dire, oui, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que je préfère être dans un état plus harmonieux avec cette personne-là puis laisser aller cette espèce de réplique qui va servir à rien de toute façon puis qui va juste créer de l'animosité? Donc ça, c'est un exemple. Il y a toutes sortes de façons d'être cohérent, comme je vous disais, par l'alimentation ou par l'activité physique, ou comment on parle à nos enfants, comment on les élève, qu'est-ce qu'on veut leur inculquer comme valeur, qu'est-ce qu'on veut s'inculquer à nous-mêmes comme valeur. Est-ce qu'on veut passer 4 heures par jour sur notre téléphone ou est-ce qu'on veut travailler sur qu'est-ce qu'on a envie de peaufiner chez nous? Est-ce qu'on veut apprendre à faire de la musique? Est-ce qu'on veut lire? Est-ce qu'on veut écrire? Est-ce qu'on veut dessiner? Est-ce qu'on veut danser? Est-ce qu'on veut faire du plein air? Bien, lâchez votre téléphone, soyez cohérent, allez vers ce que vous avez envie de faire, vous allez être fiers de vous. Puis si vous voulez des petits moments à rien faire, entre guillemets, où vous êtes sur votre téléphone, mais permettez-les-vous comme une gâterie, mais qui vous permet de rester cohérent. Vous savez que c'est une gâterie, mais il ne faut pas que ça reste, il faut pas que ça devienne quelque chose qui vous alourdit. On peut quand même se permettre ces choses-là. Moi, j'ai joué à des jeux vidéo dans le temps des fêtes comme je n'avais pas fait depuis longtemps. Puis pour moi, c'était nécessaire, j'étais fatiguée, j'avais envie de rien. Je me suis dit, ça y est, je vais faire des jeux vidéo à côté pendant quelques jours. Puis en ce moment, j'en ai plus besoin. J'ai envie d'aller vers qu'est-ce que j'ai envie d'enrichir chez moi par cohérence. Mais je me suis permis cette pause-là comme une gâterie, comme quelque chose que j'avais le droit, qui m'apportait du bien. Il ne faut pas que ça devienne une fuite. On peut l'utiliser comme une pause, comme un divertissement. On a droit à tout ça. On a le droit d'avoir du plaisir ici. Mais il ne faut juste pas que ça devienne une fuite. Il faut rester cohérent. Il faut continuer de se rappeler où on veut aller. Puis si en cours de route, on veut plus aller là, ben faut être cohérent, faut changer de direction, on tourne le volant, puis on le fait. Moi, comme je vous disais, j'ai changé des relations dans ma vie que j'aurais pas pensé 6 mois avant vouloir changer, mais quand j'ai ressenti l'émotion forte à l'intérieur de moi qui est restée jusqu'à ce que je fasse mon changement, qui est restée là peut-être 1 mois, puis je me disais, OK, c'est là, faut que je le fasse. ben j'ai changé mon volant de côté, puis j'ai été cohérente avec qui j'étais à ce moment-là. Alors, réfléchissez à votre propre cohérence. J'ai plein de beaux sujets qui s'en viennent pour de futurs épisodes. Je peux vous en nommer un petit peu si ça vous donne l'eau à la bouche. Donc, l'humilité, qui est aussi très importante si on veut arriver à changer, passer par-dessus des constantes, des patterns dans notre vie. La révérence, dont j'ai hâte de vous parler depuis longtemps, qui est aussi... j'ai compris l'importance que ça a dans un livre aussi, dont je vous parlerai une autre fois. Le phénomène de quantum leap, donc c'est un peu ce dont je vous parlais tantôt avec la cohérence, changer sa vie, mais changer tout son univers autour. On appelle ça le quantum leap. J'ai envie de vous parler aussi du rôle de parent, mais du rôle de parent conscient, aussi l'amour conscient. Il y a tellement de choses. Alors, ben, je suis contente. J'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir. Et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de prendre le temps de vous arrêter, de prendre le temps de faire de l'introspection, de vous écouter, de vous retrouver. Puis, moi, j'ai hâte de vous retrouver aussi. Au revoir.